Et la querelle partit de là. La pendule ne marquait que 10 heures. C'était une façon de tuer le temps. Ils se fouettaient. Ils lançaient au visage de Nana, dans un flot d'injures, toutes sortes d'accusations, l'une sur l'autre, sans lui permettre de se défendre. Elle était sale, elle était bête, elle avait roulé partout. Puis il s'acharna sur la question d'argent. Est-ce qu'il dépensait 6 francs, lui, quand il dînait en ville? On lui payait à dîner, sans quoi il aurait mangé son pot-au-feu. Et pour cette vieille procureuse de Maloir encore, un carcan qu'il flanquerait à la porte le lendemain. Ah bien, ils iraient loin, si chaque jour, lui et elle, jetaient comme ça les 6 francs à la rue. « D'abord, je veux des comptes » cria-t-il. « Voyons, donne l'argent, où en sommes-nous ? » Tous ses instincts d'avarice sordide éclataient. Nana, dominée, effarée, se hâta de prendre dans le secrétaire l'argent qui leur restait et de la porter devant lui. Jusque-là, la clé demeurait sur la caisse commune. Ils y puisaient librement. « Comment ? » dit-il après avoir compté. « Il reste à peine 7 000 francs sur 17 000 et nous ne sommes ensemble que depuis 3 mois ? « Ce n'est pas possible !» Lui-même s'élança, bouscula le secrétaire, apporta le tiroir pour le fouiller sous la lampe. Mais il n'y avait bien que 6 800 et quelques francs. Alors ce fut une tempête. « 10 000 francs en 3 mois » gueulait-il. « Nom de Dieu, qu'en as-tu fait ? Hein ? Réponds ! Tout ça passe à ta carcasse de tente, hein ? Où tu te paies des hommes, c'est clair. Veux-tu répondre ? Ah, si tu t'emportes, dit Nana. Le calcul est bien facile à faire. Tu ne comptes pas les meubles. Puis j'ai dû acheter du linge. Ça va vite quand on s'installe. Mais tout en exigeant des explications, il ne voulait pas les entendre. Oui, ça va trop vite, reprit-il plus calme. Et vois-tu, ma petite, j'en ai assez de cette cuisine en commun. Tu sais que ces 7 000 francs sont à moi. Eh bien, puisque je les tiens, je les garde. Dame, du moment que tu es une gâcheuse, je n'ai pas envie d'être ruinée. À chacun son bien. Et magistralement, il mit l'argent dans sa poche. Nana le regardait, stupéfaite. Lui continuait avec complaisance. « Tu comprends, je ne suis pas assez bête pour entretenir des tantes et des enfants qui ne sont pas à moi. Ça t'a plu de dépenser ton argent ? Ça te regarde. Mais le mien, c'est sacré. Quand tu feras cuire un gigot, j'en paierai la moitié. Le soir, nous réglerons. Voilà. » Du coup, Nana fut révoltée. Elle ne put retenir ce cri. « Dis donc, tu as bien mangé mes 10 000 francs. C'est cochon, ça !» Mais il ne s'attarda pas à discuter davantage. Par-dessus la table, à toute volée, il lui allongea un soufflet en disant « Répète un peu !» Elle répéta, malgré la claque, et il tomba sur elle à coups de pied et à coups de poing. Bientôt, il le mise dans un tel état qu'elle finit, comme d'habitude, par se déshabiller et se coucher en pleurant. Lui soufflait. Il se couchait à son tour lorsqu'il aperçut sur la table la lettre qu'il avait écrite à Georges. Alors il la plia avec soin, tourné vers le lit en disant d'un air menaçant « Elle est très bien, je la mettrai à la poste moi-même, parce que je n'aime pas les caprices. Et ne gêne plus, tu m'agaces !» Nana, qui pleurait à petits soupirs, retint son souffle. Quand il fut couché, elle étouffa. Elle se jeta sur sa poitrine en sanglotant. Leur batterie se terminait toujours par là. Elle tremblait de le perdre. Elle avait un lâche besoin de le savoir à elle malgré tout. À 2 reprises, il la repoussa d'un geste superbe. Mais l'embrassement tiède de cette femme qui le suppliait, avec ses grands yeux mouillés de bête fidèle, le chauffa d'un désir. Et il se fit bon prince, sans pourtant s'abaisser à aucune avance. Il se laissa caresser et prendre de force, en homme dont le pardon vaut la peine d'être gagné. puis il fut saisi d'une inquiétude. Il craignit que Nana ne jouât une comédie pour avoir la clé de la caisse. La bougie était éteinte lorsqu'il éprouva le besoin de maintenir sa volonté. « Tu sais, ma fille, c'est très sérieux. Je garde l'argent. » Nana, qui s'endormait à son cou, trouva un mot sublime. « Oui, n'aie pas peur. Je travaillerai. » Mais à partir de cette soirée, la vie entre eux devint de plus en plus difficile. D'un bout de la semaine à l'autre, il y avait un bruit de gifle, un vrai tic-tac d'horloge, qui semblait régler leur existence. Nana, à force d'être battue, prenait une souplesse de linge fin, et ça la rendait délicate de peau, rose et blanche de teint, si douce au toucher, si claire à l'œil, qu'elle avait encore embellie. Aussi, Prulière s'enrageait-il après ses jupes, venant lorsque Fontan n'était pas là, la poussant dans les coins pour l'embrasser. Mais elle se débattait, indignée tout de suite, avec des rougeurs de honte. Elle trouvait dégoûtant qu'il voulût tromper un ami. Alors, Prulière ricanait d'un air vexé. Ouais, elle devenait joliment bête. Comment pouvait-elle s'attacher à un pareil singe? Car enfin, Fontan était un vrai singe, avec son grand nez toujours en branle. Une sale tête, et un homme qui l'assommait encore. « Possible, je l'aime comme ça, » répondit-elle, un jour de l'air tranquille d'une femme avouant un goût abominable. Bosque se contentait de dîner le plus souvent possible. Il haussait les épaules derrière Prulière. Un joli garçon, mais un garçon pas sérieux. Lui, plusieurs fois, avait assisté à des scènes dans le ménage. Au dessert, lorsque Fontan giflait Nana, il continuait à mâcher gravement, trouvant ça naturel. Pour payer son dîner, il s'extasiait toujours sur leur bonheur. Il se proclamait philosophe, il avait renoncé à tout, même à la gloire. Prulière et Fontan, parfois renversés sur leurs chaises, s'oubliaient devant la table desservie, se racontaient leurs succès jusqu'à 2 heures du matin, avec leurs gestes et leurs voix de théâtre. Tandis que lui, absorbé, ne lâchant de loin en loin qu'un petit souffle de dédain, achevait silencieusement la bouteille de cognac. Qu'est-ce qu'il restait de Talma? Rien, alors qu'on lui ficha la paix, c'était trop bête. Un soir, il trouva Nana en larmes. Elle ôta sa camisole pour montrer son dos et ses bras noirs de coups. Il lui regarda la peau sans être tenté d'abuser de la situation, comme l'aurait fait cet imbécile de Prulière. Puis, sentencieusement, « Ma fille, où il y a des femmes, il y a des claques. C'est Napoléon qui a dit ça, je crois. Lave-toi avec de l'eau salée. Excellent, l'eau salée pour ces bobos. Va, tu en recevras d'autres. Et ne te plains pas tant, tant que tu n'auras rien de cassé. Tu sais, je m'invite, j'ai vu un gigot. » Mais Madame Lerat n'avait pas cette philosophie. Chaque fois que Nana lui montrait un nouveau bleu sur sa peau blanche, elle poussait de hauts cris. On lui tuait sa nièce, ça ne pouvait pas durer. À la vérité, Fontan avait mis à la porte Madame Lerat en disant qu'il ne voulait plus la rencontrer chez lui. Et depuis ce jour, quand elle était là et qu'il rentrait, elle devait s'en aller par la cuisine, ce qui l'humiliait horriblement. Aussi ne tarissait-elle pas contre ce grossier personnage. Elle lui reprochait surtout d'être mal élevée, avec des mines de femme comme il faut, à qui personne ne pouvait en remontrer sur la bonne éducation. Oh, « Ça se voit tout de suite, » disait-elle à Nana. « Il n'a pas le sentiment des moindres convenances. Sa mère devait être commune. Ne dis pas non, ça se sent. Je ne parle pas pour moi, bien qu'une personne de mon âge ait droit aux égards. Mais toi, vraiment, comment fais-tu pour endurer ces mauvaises manières ? Car, sans me flatter, j'ai toujours appris à te tenir, et tu as reçu chez toi les meilleurs conseils. Hein? Nous étions tous très bien dans la famille. » Nana ne protestait pas, écoutait la tête basse. « Puis, continuait la tante, tu n'as connu que des personnes distinguées. Justement, nous causions de ça hier soir avec Zoé chez moi. Elle non plus ne comprend pas. Comment, disait-elle, madame qui menait monsieur le comte, un homme si parfait au doigt et à l'œil, car entre nous, il paraît que tu le faisais tourner en bourrique. Comment madame peut-elle se laisser massacrer par ce polichinelle ? Moi, j'ai ajouté que les coups, ça se supportait encore, mais que jamais je n'aurais souffert le manque d'égard. Enfin, il n'a rien pour lui. Je ne le voudrais pas dans ma chambre en peinture. Et tu te ruines pour un oiseau pareil. Oui, tu te ruines, ma chérie. Tu tires la langue lorsqu'il y en a tant, et des plus riches, et des personnages du gouvernement. Suffit. Ce n'est pas moi qui dois dire ces choses. Mais à la première saleté, je te le planterai là avec un... Monsieur, pour qui me prenez-vous? Tu sais, de ton grand air, qui lui couperait bras et jambes. Alors Nana éclatait en sanglots, balbutiant. Oh, ma tante, je l'aime! La vérité était que madame Lerat se sentait inquiète en voyant sa nièce lui donner à grand-peine des pièces de 20 sous de loin en loin pour payer la pension du petit Louis. Sans doute elle se dévouerait, elle garderait quand même l'enfant et attendrait des temps meilleurs. Mais l'idée que Fontant les empêchait, elle, le gamin et sa mère, de nager dans l'or, l'enrageait au point de lui faire nier l'amour. Aussi, concluait-elle par ces paroles sévères. « Écoute, un jour qu'il t'aura enlevé la peau du ventre, tu viendras frapper à ma porte et je t'ouvrirai. » Bientôt, l'argent devint le gros souci de Nana. Fontant avait fait disparaître les 7 000 francs. Sans doute ils étaient en lieu sûr, et jamais elle n'aurait osé le questionner, car elle montrait des pudeurs avec cet oiseau, comme l'appelait madame Lerat. Elle tremblait qu'il pût la croire capable de tenir à lui pour ses 4 sous. Il avait bien promis de fournir aux besoins du ménage. Les premiers jours, chaque matin, il donnait 3 francs. Mais c'était des exigences d'homme qui paie. Avec ces 3 francs, il voulait de tout, du beurre, de la viande, des primeurs, et si elle risquait des observations, si elle insinuait qu'on ne pouvait pas avoir les halles pour 3 francs, il s'emportait. Il la traitait de bonne à rien, de gâcheuse, de fichue bête que les marchands volaient. Toujours prêt d'ailleurs à la menacer de prendre pension autre part. Puis, au bout d'un mois, certains matins, il avait oublié de mettre les 3 francs sur la commode. Elle s'était permis de les lui demander, timidement, d'une façon détournée. Alors, il y avait eu de telles querelles, il lui rendait la vie si dure sous le premier prétexte venu, qu'elle préférait ne plus compter sur lui. Au contraire, quand il n'avait pas laissé les 3 pièces de 20 sous, et qu'il trouvait tout de même à manger, il était gai comme un pinson, galant, baisant Nana, valsant avec les chaises. Et elle, toute heureuse, en arrivait à souhaiter de ne rien trouver sur la commode, malgré le mal qu'elle avait à joindre les 2 bouts. Un jour même, elle lui rendit ses 3 francs, contant une histoire, disant avoir encore l'argent de la veille. Comme il n'avait pas donné la veille, il demeura un instant hésitant, par crainte d'une leçon. Mais elle le regardait de ses yeux d'amour, elle le baisait dans un don absolu de toute sa personne. Et il rempocha les pièces, avec le petit tremblement convulsif d'un avare qui rattrape une somme compromise. À partir de ce jour, il ne s'inquiéta plus, ne demandant jamais d'où venait la monnaie, la mine grise quand il y avait des pommes de terre, riant à se décrocher les mâchoires devant les dindes et les gigots, sans préjudice pourtant de quelques claques qu'il allongeait à Nana, même dans son bonheur, pour s'entretenir la main. Nana avait donc trouvé le moyen de suffire à tout. La maison, certains jours, regorgeait de nourriture. 2 fois par semaine, Bosque prenait des indigestions. Un soir, que Madame Leroy se retirait, enragée de voir au feu un dîner copieux dont elle ne mangerait pas, elle ne put s'empêcher de demander brutalement qui est-ce qui payait. Nana, surprise, devint toute bête et se mit à pleurer.
« Eh bien, c'est du propre !»
dit la tante qui avait compris. Nana s'était résignée pour avoir la paix dans son ménage. Puis c'était la faute de la Tricon qu'elle avait rencontrée rue de Laval un jour que Fontan était parti furieux à cause d'un plat de morue. Alors elle avait dit oui à la Tricon, qui justement se trouvait en peine. Comme Fontan ne rentrait jamais avant 6 heures, elle disposait de son après-midi. Elle rapportait 40 francs, 60 francs, quelquefois davantage. Elle aurait pu parler par 10 et 15 louis si elle avait su garder sa situation. Mais elle était encore bien contente de trouver là de quoi faire bouillir la marmite. Le soir, elle oubliait tout lorsque Bosque crevait de nourriture et que Fontan, les coudes sur la table, se laissait baiser les yeux de l'air supérieur d'un homme qui est aimé pour lui-même. Alors, tout en adorant son chéri, son chien aimé, avec une passion d'autant plus aveugle qu'elle payait à cette heure, Nana retomba dans la crotte du début. Elle roula, elle battit le pavé de ses anciennes savates de petits torchons, en quête d'une pièce de 100 sous. Un dimanche, au marché de la Rochefoucauld, elle avait fait la paix avec Satin, après s'être jetée sur elle en lui reprochant Madame Robert, furieusement. Mais Satin se contentait de répondre que lorsqu'on n'aimait pas une chose, ce n'était pas une raison pour vouloir en dégoûter les autres. Et Nana, d'esprit large, cédant à cette idée philosophique qu'on ne sait jamais par où l'on finira, avait pardonné. Même la curiosité mise en éveil, elle la questionnait sur des coins de vice, stupéfiée d'en apprendre encore à son âge après tout ce qu'elle savait. Et elle riait, elle s'exclamait, trouvant ça drôle, un peu répugnée cependant, car au fond, elle était bourgeoise pour ce qui n'entrait pas dans ses habitudes. Aussi retourna-t-elle chez Laure, mangeant là, lorsque Fontan dînait en ville. Elle s'y amusait des histoires, des amours et des jalousies qui passionnaient les clientes sans leur faire perdre un coup de fourchette. Pourtant, elle n'en était toujours pas, comme elle disait. La grosse Laure, avec sa maternité attendrie, l'invitait souvent à passer quelques jours dans sa villa d'Asnières, une maison de campagne, où il y avait des chambres pour 7 dames. Elle refusait. Elle avait peur. Mais Satin, lui ayant juré qu'elle se trompait, que des messieurs de Paris vous balançaient et jouaient au tonneau, elle promit pour plus tard, quand elle pourrait s'absenter. À 7 heures, Nana, très tourmentée, n'était guère à la rigolade. Il lui fallait de l'argent. Quand la Tricot n'avait pas besoin d'elle, ce qui arrivait trop souvent, elle ne savait où donner de son corps. Alors, c'était avec Satin des sorties enragées sur le pavé de Paris, dans ce vice d'en bas qui rôde le long des ruelles boueuses sous la clarté trouble du gaz. Nana retourna dans les bastringues de barrière où elle avait fait sauter ses premiers jupons sales. Elle revit les coins noirs des boulevards extérieurs, les bornes sur lesquelles des hommes à 15 ans l'embrassaient, lorsque son père la cherchait pour lui enlever le derrière. Toutes deux couraient, faisaient les bals et les cafés d'un quartier, grimpant des escaliers humides de crachats et de bières renversées. Ou bien, elle marchait doucement, elle remontait les rues, se plantait debout contre les portes cochères. Satin, qui avait débuté au quartier latin, y conduisit Nana, à Bullier et dans les brasseries du boulevard Saint-Michel. Mais les vacances arrivaient, le quartier sentait trop la dèche, et elle revenait toujours au grand boulevard. C'était encore là qu'elles avaient le plus de chance. Des hauteurs de Montmartre, au plateau de l'Observatoire, elle battait ainsi la ville entière. Soirée de pluie où les bottines s'éculaient, soirée chaude qui collait les corsages sur la peau, longue faction, promenade sans fin, bousculades et querelles, brutalité dernière d'un passant, emmené dans quelque garni borgne et redescendant les marches grasses avec les jurons. L'été finissait, un été orageux aux nuits brillantes. Elles partaient ensemble après le dîner, vers 9 heures. Sur les trottoirs de la rue Notre-Dame-de-Lorette, deux files de femmes rasant les boutiques, les jupons troussés, le nez à terre, se hâtaient vers les boulevards d'un air affairé, sans un coup d'œil aux étalages. C'était la descente affamée du quartier Bréda, dans les premières flammes du gaz. Nana et Satin longeaient l'église, prenaient toujours par la rue Le Pelletier. Puis, à 100 mètres du café riche, comme elles arrivaient sur le champ de manœuvre, elles rabattaient la queue de leur robe, relevée jusque-là d'une main soigneuse. Et dès lors, risquant la poussière, balayant les trottoirs et roulant la taille, elles s'en allaient à petits pas. Elles ralentissaient encore leur marche lorsqu'elles traversaient le coup de lumière cru d'un grand café. Rengorgées, le rire haut, avec des regards en arrière sur les hommes qui se retournaient, elles étaient chez elles. Leur visage blanchi, taché du rouge des lèvres et du noir des paupières, prenait dans l'ombre le charme troublant d'un Orient de bazar à 13 sous, lâché au plein air de la rue. Jusqu'à 11 heures, parmi les heurts de la foule, elles restaient gaies, jetant simplement un « sale mufle » de loin en loin, derrière le dos des maladroits dont le talon leur arrachait un volant. Elles échangeaient de petits saluts familiers avec des garçons de café, s'arrêtaient à causer devant une table, acceptaient des consommations qu'elles buvaient lentement, en personne heureuse de s'asseoir, pour attendre la sortie des théâtres. Mais, à mesure que la nuit s'avançait, si elles n'avaient pas fait un ou deux voyages rue La Rochefoucauld, elles tournaient à la salle Garce, leur chasse devenait plus âpre. Il y avait, au pied des arbres, le long des boulevards assombris qui se vidaient, des marchandages féroces, des gros mots et des coups. Pendant que d'honnêtes familles, le père, la mère et les filles, habituées à ces rencontres, passaient tranquillement, sans presser le pas. Puis, après être allées 10 fois de l'opéra au gymnase, Nana et Satin, lorsque décidément les hommes se dégageaient et filaient plus vite, dans l'obscurité croissante, s'en tenait au trottoir de la rue du Faubourg Montmartre. Là, jusqu'à 2 heures, des restaurants, des brasseries, des charcutiers flambaient. Tout un grondement de femmes s'entêtait sur la porte des cafés. Dernier coin allumé et vivant du Paris nocturne, dernier marché ouvert aux accords d'une nuit, où les affaires se traitaient parmi les groupes, crûment, d'un bout de la rue à l'autre, comme dans le corridor largement ouvert d'une maison publique. Et, les soirs où elles revenaient à vide, elles se disputaient entre elles. La rue Notre-Dame-de-Lorette s'étendait noire et déserte, des ombres de femmes se traînaient. C'était la rentrée attardée du quartier. Les pauvres filles, exaspérées d'une nuit de chômage, s'obstinant, discutant encore d'une voix enrouée, avec quelque ivrogne perdu, qu'elle retenait à l'angle de la rue Bréda ou de la rue Fontaine. Cependant, il y avait de bonnes aubaines, des louis attrapés avec des messieurs bien, qui montaient en mettant leurs décorations dans la poche. Satin surtout avait le nez. Les soirs humides, lorsque Paris mouillé exhalait une odeur fade de grande alcôve mal tenue, elle savait que ce temps mou, cette fétidité des coins louches enrageait les hommes. Et elle guettait les mieux mis. Elle voyait ça à leurs yeux pâles. C'était comme un coup de folie charnelle passant sur la ville. Elle avait bien un peu peur, car les plus comme il faut étaient les plus sales. Tout le vernis craquait. La bête se montrait, exigeante dans ses goûts monstrueux, raffinant sa perversion. Aussi, cette roulure de Satin manquait-elle de respect, s'éclatant devant la dignité des gens en voiture, disant que leur cocher était plus gentil parce qu'il respectait les femmes et qu'il ne les tuait pas avec des idées de l'autre monde. la culbute des gens chics dans la crapule du vice surprenait encore Nana, qui gardait des préjugés dont Satin la débarrassait. Alors, comme elle le disait lorsqu'elle causait gravement, il n'y avait donc plus de vertu. Du haut en bas, on se roulait. Eh bien, ça devait être du propre dans Paris, de 9 heures du soir à 3 heures du matin. Et elle rigolait. Elle criait que, si l'on avait pu voir dans toutes les chambres, on aurait assisté à quelque chose de drôle. Le petit monde s'en donnant par-dessus les oreilles, et pas mal de grands personnages, ça et là, le nez enfoncé dans la cochonnerie, plus profondément que les autres. Ça complétait son éducation. Un soir, en venant prendre Satin, elle reconnut le marquis de Choirs qui descendait l'escalier, les jambes cassées, se traînant sur la rampe, avec une figure blanche. Elle feignit de se moucher. Puis, en haut, comme elle trouvait Satin dans une saleté affreuse, le ménage lâché depuis 8 jours, un lit infect, des pots qui traînaient, elle s'étonna que celle-ci connût le marquis. Ah oui, elle le connaissait, même qu'il les avait joliment embêtés, elle et son pâtissier, quand ils étaient ensemble. Maintenant, il revenait de temps à autre. Mais il l'assommait, il reniflait dans tous les endroits pas propres, jusque dans ses pantoufles. Oui, ma chère, dans mes pantoufles. Oh, un vieux saligaud. Il demande toujours des choses. Ce qui inquiétait surtout Nana, c'était la sincérité de ses basses débauches. Elle se rappelait ses comédies du plaisir lorsqu'elle était une femme lancée, tandis qu'elle voyait les filles autour d'elle y crever un peu tous les jours. Puis, Satin lui faisait une peur abominable de la police. Elle était pleine d'histoires sur ce sujet-là. Autrefois, elle couchait avec un agent des mœurs pour qu'on la laissât tranquille. À 2 reprises, il avait empêché qu'on ne la mît en carte. Et à présent, elle tremblait, car son affaire était claire, si on la pinçait encore. Il fallait l'entendre. Les agents, pour avoir des gratifications, arrêtaient le plus de femmes possible. Ils empoignaient tout. Ils vous faisaient taire d'une gifle si l'on criait, certains d'être soutenus et récompensés, même quand ils avaient pris dans le tas une honnête fille. L'été, à 12 ou 15, ils opéraient des rafles sur le boulevard. Ils cernaient un trottoir, pêchaient jusqu'à des 30 femmes en une soirée. Seulement, Satin connaissait les endroits. Dès qu'elle apercevait le nez des agents, elle s'envolait au milieu de la débandade et farait des longues queues, fuyant à travers la foule. C'était une épouvante de la loi, une terreur de la préfecture, si grande que certaines restaient paralysées sur la porte des cafés, dans le coup de force qui balayait l'avenue. Mais Satin redoutait davantage les dénonciations. Son pâtissier s'était montré assez muf pour la menacer de la vendre lorsqu'elle l'avait quittée. Oui, des hommes vivaient sur leur maîtresse avec ce truc-là, sans compter de sales femmes qui vous livraient très bien par traîtrise, si l'on était plus jolie qu'elle. Nana écoutait ces choses, prise de frayeur croissante. Elle avait toujours tremblé devant la loi, cette puissance inconnue, cette vengeance des hommes qui pouvaient la supprimer sans que personne au monde la défendît. Saint-Lazare lui apparaissait comme une fosse, un trou noir où l'on enterrait les femmes vivantes après leur avoir coupé les cheveux. Elle se disait bien qu'il lui aurait suffi de lâcher Fontan pour trouver des protections. Satin avait beau lui parler de certaines listes de femmes accompagnées de photographies que les agents devaient consulter, avec défense de jamais toucher à celle-là. Elle n'en gardait pas moins un tremblement. Elle se voyait toujours bousculée, traînée, jetée le lendemain à la visite. Et ce fauteuil de la visite l'emplissait d'angoisse et de honte, elle qui avait lancé 20 fois sa chemise par-dessus les moulins. Justement, vers la fin de septembre, un soir qu'elle se promenait avec Satin sur le boulevard Poissonnière, celle-ci tout d'un coup se mit à galoper. Et, comme elle l'interrogeait,
Les agents ! Souffla-t-elle. Eus donc ! Eus donc !
Ce fut, au milieu de la cohue, une course folle. Des jupes fuyaient, se déchiraient. Il y eut des coups et des cris. Une femme tomba. La foule regardait avec des rires la brutale agression des agents, qui rapidement resserraient leur cercle. Cependant, Nana avait perdu sa tête. Les jambes mortes, elle allait sûrement être arrêtée, lorsqu'un homme, l'ayant prise à son bras, l'emmena devant les agents furieux. C'était Prullière qui venait de la reconnaître. Sans parler, il tourna avec elle dans la rue Rougemont, alors déserte, où elle put souffler, si défaillante qu'il dut la soutenir. Elle ne le remerciait seulement pas. « Voyons, dit-il enfin, il faut te remettre. Monte chez moi. » Il logeait à côté, rue Bergère. Mais elle se redressa aussitôt. « Non, je ne veux pas. » Alors il devint grossier, reprenant « Puisque tout le monde y passe, hein, pourquoi ne veux-tu pas ?»«
Parce que... »
Cela disait tout dans son idée. Elle l'aimait trop Fontan pour le trahir avec un ami. Les autres ne comptaient pas du moment qu'il n'y avait pas de plaisir et que c'était par nécessité. Devant cet entêtement stupide, Prullière commit une lâcheté de joli homme vexé dans son amour-propre.
« Eh bien, à ton aise »
déclara-t-il. « Seulement, je ne vais pas de ton côté, ma chère. Tire-toi d'affaire toute seule. » Et il l'abandonna. Son épouvante la reprit. Elle fit un détour énorme pour entrer à Montmartre, filant raide le long des boutiques, pâlissant dès qu'un homme s'approchait d'elle. Ce fut le lendemain, dans l'ébranlement de ses terreurs de la veille, que Nana, en allant chez sa tante, se trouva nez à nez avec la Bordette, au fond d'une petite rue solitaire des Batignolles. D'abord, l'un et l'autre parurent gênés. Lui, toujours complaisant, avait des affaires qu'il cachait. Pourtant, il se remit le premier. Il s'exclama sur la bonne rencontre. Vrai, tout le monde était encore stupéfait de l'éclipse totale de Nana. On la réclamait. Les anciens amis séchaient sur pied. Et, se faisant paternel, il finit par la sermonner. « Entre nous, ma chère, franchement, ça devient bête. On comprend une tocade. Seulement, en venir là, être grugé à ce point et n'empocher que des gifles, tu poses donc pour les prix de vertu. » Elle l'écoutait d'un air embarrassé. Cependant, lorsqu'il lui parla de Rose, qui triomphait avec sa conquête du comte Muffat, une flamme passa dans ses yeux. Elle murmura « Oh, si je voulais !» Il proposa tout de suite son entremise, en ami obligeant, mais elle refusa. Alors il l'attaqua par un autre point. Il lui apprit que Bordenave montait une pièce de faucherie où il y avait un rôle superbe pour elle.
« Comment ? Une pièce où il y a un rôle ? » s'écria-t-elle, stupéfaite. « Mais il en est et il ne m'a rien dit !»
Elle ne nommait pas Fontan. D'ailleurs, elle se calma tout de suite. Jamais elle ne rentrerait au théâtre. Sans doute, la Bordette n'était pas convaincue, car il insistait avec un sourire. « Tu sais qu'on n'a rien à craindre avec moi. Je prépare ton Muffat, tu rentres au théâtre et je te l'amène par la patte. »«
Non !»
dit-elle énergiquement. Et elle le quitta. Son héroïsme l'attendrissait sur elle-même. Ce n'était pas un muffe d'homme qui se serait sacrifié comme ça sans le trompeter. Pourtant, une chose la frappait. La Bordette venait de lui donner exactement les mêmes conseils que Francis. Le soir, lorsque Fontan rentra, elle le questionna sur la pièce de faucherie. Lui, depuis 2 mois, avait fait sa rentrée aux variétés.
Pourquoi ne lui avait-il pas parlé du rôle ?
Quel rôle ? Dit-il de sa voix mauvaise.
Ce n'est pas le rôle de la grande dame, peut-être.
Ça, tu te crois donc du talent ? Mais ce rôle-là, ma fille, t'écraserait.
Vrai, tu es comique.
Elle fut horriblement blessée. toute la soirée. Il la blagua en l'appelant Mademoiselle Mars. Et plus il tapait sur elle, plus elle tenait bon, goûtant une jouissance amère dans cet héroïsme de sa tocade, qui la rendait très grande et très amoureuse à ses propres yeux. Depuis qu'elle allait avec d'autres pour le nourrir, elle l'aimait davantage, de toute la fatigue et de tous les dégoûts qu'elle rapportait. Il devenait son vice, qu'elle payait, son besoin, dont elle ne pouvait se passer sous l'aiguillon des gifles. Lui, en voyant la bonne bête, finissait par abuser. Elle lui donnait sur les nerfs. Il se prenait d'une haine féroce au point de ne plus tenir compte de ses intérêts. Lorsque Bosque lui adressait des observations, il criait, exaspéré, sans qu'on sût pourquoi, qu'il se fichait d'elle et de ses bons dîners, qu'il la flanquerait dehors rien que pour faire cadeau de ses 7 000 francs à une autre femme. Et ce fut là le dénouement de leur liaison. Un soir, Nana, en rentrant vers 11 heures, trouva la porte fermée au verrou. Elle tapa une première fois, pas de réponse. Une seconde fois, toujours pas de réponse. Cependant, elle voyait de la lumière sous la porte, et Fontan, à l'intérieur, ne se gênait pas pour marcher. Elle tapa encore sans se lasser, appelant, se fâchant. Enfin, la voix de Fontan s'éleva, lente et grasse, et ne lâcha qu'un mot. « Merde !» Elle tapa des deux poings. « Merde !» Elle tapa plus fort, à fendre le bois. « Merde !» Et pendant un quart d'heure, la même ordure la souffleta, répondit comme un écho goguenard à chacun des coups dont elle ébranlait la porte. Puis, voyant qu'elle ne se lassait pas, il ouvrit brusquement, il se campa sur le seuil, les bras croisés, et dit de la même voix froidement brutale « Nom de Dieu, avez-vous fini? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Allez-vous nous laisser dormir? Voyez bien que j'ai du monde !» Il n'était pas seul, en effet. Nana aperçut la petite femme des bouffes, déjà en chemise, avec ses cheveux filasses ébouriffés, et ses yeux en trous de vrille, qui rigolaient au milieu de ses meubles qu'elle avait payés. Mais Fontan faisait un pas sur le carré, l'air terrible, ouvrant ses gros doigts comme des pinces. « File, ou je t'étrangle !» Alors, Nana éclata en sanglots nerveux. Elle eut peur et se sauva. Cette fois, c'était elle qu'on flanquait dehors. L'idée de Muffa lui vint tout d'un coup dans sa rage. Mais vrai, ce n'était pas Fontan qui aurait dû lui rendre l'appareil. Sur le trottoir, sa première pensée fut d'aller coucher avec Satin, si celle-ci n'avait personne. Elle la rencontra devant sa maison, jetée elle aussi sur le pavé par son propriétaire, qui venait de faire poser un cadenas à sa porte, contre tout droit, puisqu'elle était dans ses meubles. Elle jurait, elle parlait de le traîner chez le commissaire. En attendant, comme minuit sonnait, il fallait songer à trouver un lit. Et Satin, jugeant prudent de ne pas mettre les sergents de ville dans ses affaires, finit par emmener Nana rue de Laval, chez une dame qui tenait un petit hôtel meublé. On leur donna au premier étage une étroite chambre dont la fenêtre ouvrait sur la cour. Satin répétait « Je serais bien allé chez Madame Robert, il y a toujours un coin pour moi. » Mais avec toi, pas possible. Elle devient ridicule de jalousie. L'autre soir, elle m'a battue. » Quand elles se furent enfermées, Nana, qui ne s'était pas soulagée encore, fondit en larmes et raconta à 20 reprises la saleté de Fontan. Satin l'écoutait avec complaisance, la consolait, s'indignait plus fort qu'elle, tapant sur les hommes. « Oh, les cochons! Oh, les cochons! Vois-tu, n'en faut plus de ces cochons-là !» Puis, elle aida Nana à se déshabiller. Elle eut autour d'elle des airs de petite femme prévenante et soumise. Elle répétait avec câlinerie « Couchons-nous vite, mon chat, nous serons mieux. Ah, que tu es bête de te faire de la bile! Je te dis que ce sont des salauds. Ne pense plus à eux. Moi, je t'aime bien. Ne pleure pas. Fais ça pour ta petite chérie. » Et, dans le lit, elle prit tout de suite Nana entre ses bras, afin de la calmer. Elle ne voulait plus entendre le nom de Fontan. Chaque fois qu'il revenait sur les lèvres de son amie, elle l'y arrêtait d'un baiser, avec une jolie moue de colère, les cheveux dénoués, d'une beauté enfantine et noyée d'attendrissement. Alors, peu à peu, dans cette étreinte si douce, Nana essuya ses larmes. Elle était touchée. Elle rendait à Satin ses caresses. Lorsque 2 heures sonnèrent, la bougie brûlait encore. Toutes deux avaient de légers rires étouffés avec des paroles d'amour. Mais brusquement, à un vacarme qui monta dans l'hôtel, Satin se leva, demi-nu, prêtant l'oreille. « La police !» dit-elle toute blanche. « Ah, nom d'un chien, pas de chance, nous sommes foutus !» 20 fois, elle avait compté les descentes que les agents faisaient dans les hôtels. Et justement, cette nuit-là, en se réfugiant rue de Laval, ni l'une ni l'autre ne s'était méfiée. Au mot de police, Nana avait perdu la tête. Elle sauta du lit, courut à travers la chambre, ouvrit la fenêtre, de l'air égaré d'une folle qui va se précipiter. Mais heureusement, la petite cour était vitrée. Un grillage en fil de fer se trouvait là, de plein pied. Alors, elle n'hésita point. Elle enjamba l'appui et disparut dans le noir, la chemise volante, les cuisses à l'air de la nuit. « Reste donc !» répétait Satin effrayé. « Tu vas te tuer !» Puis, comme on cognait à la porte, elle fut bonne fille, repoussant la fenêtre, jetant les vêtements de son amie au fond d'une armoire. Déjà, elle s'était résignée en se disant qu'après tout, si on la mettait en carte, elle n'aurait plus cette bête de peur. Elle joua la femme écrasée de sommeil, bâilla, parlementa, finit par ouvrir à un grand gaillard la barbe sale qui lui dit « Montrez vos mains. Vous n'avez pas de piqûre? Vous ne travaillez pas? Allons, habillez-vous. » « Mais je ne suis pas couturière, je suis brunisseuse !» déclara Satin avec effronterie. D'ailleurs, elle s'habilla docilement, sachant qu'il n'y avait pas de discussion possible. Des cris s'élevaient dans l'hôtel. Une fille se cramponnait aux portes, refusant de marcher. Une autre, qui était couchée avec un amant, et dont celui-ci répondait, faisait la femme honnête outragée, parlait d'intenter un procès au préfet de police. Pendant près d'une heure, ce fut un bruit de gros souliers sur les marches, des portes ébranlées à coups de poing, des querelles aiguës s'étouffant dans des sanglots, des glissements de jupes frôlant les murs, tout le réveil brusque et le départ effaré d'un troupeau de femmes, brutalement emballées par 3 agents, sous la conduite d'un petit commissaire blond, très poli. Puis l'hôtel retomba à un grand silence. Personne ne l'avait vendue. Nana était sauvée. Elle rentra à tâtons dans la chambre, grelottante, morte de peur. Ses pieds nus saignaient, déchirés par le grillage. Longtemps, elle resta assise au bord du lit, écoutant toujours. Vers le matin, pourtant, elle s'endormit. Mais à 8 heures, lorsqu'elle s'éveilla, elle se sauva de l'hôtel et courut chez sa tante. Quand Madame Lerat, qui justement prenait son café au lait avec Zoé, l'aperçut à 7 heures, faite comme une souillon, la face renversée, elle comprit tout de suite. « Ça y est » cria-t-elle. « Je t'avais bien dit qu'il t'enlèverait la peau du ventre. Allons, entre, tu seras toujours bien reçue chez moi. » Zoé s'était levée, murmurant avec une familiarité respectueuse. « Enfin, madame nous est rendue. J'attendais, madame. » Mais madame Lerat voulut que Nana embrassât tout de suite Louiset, parce que, disait-elle, c'était son bonheur à cet enfant que la sagesse de sa mère. Louiset dormait encore, maladif, le sang pauvre. Et lorsque Nana se pencha sur sa face blanche et scrofuleuse, tous ces embêtements des derniers mois la reprirent à la gorge et l'étranglèrent. Oh, mon pauvre petit, mon pauvre petit, bégaya-t-elle dans une dernière crise de sanglots.